Hardigan.
Hardigan présente Pachinko de Min-Jin Lee, traduit de l'anglais par Laura Bourgeois, lu par Maud Rudigoz. À Christopher et Sam. Livre 1. Goyang, la terre d'origine. 1910-1933. Et bien que la patrie ne soit qu'un nom, un mot, ce mot-là a tant d'éloquence. Il a plus de force en vérité que n'en eut jamais la parole d'un magicien ou la réponse de l'esprit évoquée par ses conjurations. Charles Dickens. Chapitre 1. Yeongdo, Busan, Corée. L'histoire nous a failli, mais qu'importe. Au tournant du siècle, leurs revenus diminuant, un vieux pêcheur et sa femme décidèrent d'accueillir des pensionnaires au sein de leur foyer. Tous deux étaient nés dans le village de Yeongdo, un îlot de 8 km au large de la ville portuaire de Busan, et ne l'avaient jamais quitté. Au cours de leurs longues années de mariage, la femme donna naissance à 3 fils, mais seul l'aîné, qui se trouvait être le plus fragile, survécut. Si Uni était né avec un bec de lièvre et un pied beau, il était en revanche doté d'épaules larges, d'une carrure solide, d'un teint doré, et avait, en grandissant, conservé son tempérament doux et pensif d'enfant. Quand Uni dissimulait sa bouche tordue derrière ses mains, un geste devenu machinal à chaque nouvelle rencontre, il ressemblait à son père, un homme séduisant dont il avait hérité les grands yeux rieurs. Des sourcils noirs d'encre se dessinaient élégamment sous son large front dont la peau dorée avait pris une teinte bronze à force de travail en extérieur. Comme ses parents, Uni n'était pas volubile, ce qui poussait certains à croire que, parce que son discours n'était pas vif, quelque chose devait clocher dans son esprit. Ils avaient tort. En 1910, Uni avait 27 ans quand le Japon annexa la Corée. Le pêcheur et sa femme, qui étaient des gens simples, refusaient de se laisser distraire par l'incompétence des aristocrates et des dirigeants corrompus qui avaient abandonné leur patrie aux mains de voleurs. Quand le loyer de leur maison augmenta, le couple libéra la chambre et s'installa dans le vestibule, près de la cuisine, afin d'accueillir plus de pensionnaires. La maison en bois qu'ils louaient depuis plus de 30 ans n'était pas grande, à peine 45 mètres carrés. Des parois coulissantes en papier divisaient l'espace en 3 pièces étroites, et pour éviter les fuites d'eau, le pêcheur avait remplacé lui-même le toit de paille humide par des tuiles d'argile rougeâtre, au bénéfice du propriétaire qui vivait dans une splendide villa de Busan. La cuisine finit par être reléguée dans le potager pour faire de la place aux marmites de plus en plus grandes et aux tables d'appoint suspendues à des crochets sur le mur de pierre couvert de mortier. Comme le voulait son père, Uni avait appris à lire et à écrire le coréen et le japonais afin de pouvoir tenir les comptes de la pension, ainsi qu'à calculer de tête pour ne pas se faire avoir au marché. Une fois cet apprentissage réalisé, ses parents le retirèrent de l'école du village. Adolescent, Uni abattait le travail d'un homme de 2 fois son âge aux 2 jambes valides, car s'il n'était pas capable de courir, ni même de marcher vite, il était habile de ses mains et pouvait porter de lourdes charges. Uni et son père avaient la réputation de n'avoir jamais touché à un godet de vin. Le couple avait élevé leur seul fils survivant, l'estropié du coin, avec pour idée d'en faire un homme intelligent et autonome, car personne ne s'occuperait de lui à leur mort. Si un homme et sa femme pouvaient partager un seul cœur, ça aurait été Uni. Ils avaient perdu leurs autres fils, la rougeole avait emporté le benjamin, et la stupidité le cadet, empalé par une corne de taureau. À part pour aller à l'école et au marché, le vieux couple empêchait Uni de trop s'éloigner, et en grandissant, le jeune homme continua de rester à la maison pour aider ses parents. Ces derniers ne supportaient pas de le décevoir, mais ils l'aimaient trop pour le pouponner. On disait qu'un fils gâté pouvait causer plus de tort à une famille qu'un fils mort, alors il se gardait bien de le choyer. D'autres n'avaient pas la chance d'avoir des parents aussi raisonnables, et comme souvent dans les pays pillés par l'ennemi ou ravagés par la nature, les plus faibles, les anciens, les veuves et les orphelins, étaient plus désespérés que jamais sur la péninsule colonisée. On faisait la queue pour un bol d'orge en échange d'une journée de travail. Au printemps 1911, 2 semaines après le 28e anniversaire d'Uni, la marieuse du village rendit visite à la femme du pêcheur. Cette dernière la conduisit dans la cuisine. Il fallait parler à voix basse pour ne pas réveiller les pensionnaires qui dormaient à l'avant de la maison. C'était la fin de la matinée et les pêcheurs de nuit avaient englouti leur repas chaud, s'étaient lavés et étaient allés se coucher.